voix nue. Cette semaine, Antoine Guillot rencontre Étienne Robial. Ce soir, on n'est pas là pour faire joli.
Bonsoir Étienne Robial.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez longuement raconté comment vous avez conçu et dirigé d'une main de fer l'image de Canal+, dont vous avez été, je le rappelle, le directeur artistique pendant 25 ans, de sa création en 1984 jusqu'à 2009. Mais pendant ce temps, comme vous aviez encore quelques heures perdues, vous avez fait beaucoup de choses et notamment vous avez habillé de nombreuses autres chaînes de télévision, M6, La 7... Et d'autres, est-ce que ça ne posait pas un problème de conflit d'intérêts ?
Oui, ou tout simplement de déontologie. Je suis au départ, alors c'est vrai que sur mon passeport, longtemps, il était écrit éditeur. Et chaque fois que j'ai été sollicité, ou par Pierre Lescure sur Canal+, ou toutes les chaînes du groupe, encore une fois, c'était pour mes... peut-être mes compétences ou ma façon d'analyser ou de voir comment on pouvait sortir ou mettre en valeur ou faire valoir les choses pour lesquelles on me sollicitait. M6, c'est Jean Drucker, le frère de l'autre, qui est décédé maintenant, qui était patron de M6. Et je me souviens qu'il était aussi avec Taverneau, qui est toujours là, qui viennent bien sûr me voir en me disant « Ah bah c'est intéressant, est-ce que tu pourrais ?» etc. Donc je vais voir Pierre et Lescure, puis je lui dis « Quand même, je suis embêté, c'est la concurrence. » Concurrence. Il me dit « C'est un truc de clip, etc. Si ça t'amuse... » Et puis, comme à l'époque, on n'était pas très très bien payé à Canal+. Puis, encore une fois, moi, je ne le faisais pas pour gagner ma vie. Ou même encore aujourd'hui, je suis pas demandeur d'emploi et j'arrête pas de bosser. Il me dit, si ça t'amuse, et puis si tu peux prendre 3 sous, fais-le. Transmets mon bonjour à Jean, et puis fais-le, etc. Le robinet à clip... Et toujours là, ça s'appelait la petite chaîne qui monte, et ils sont toujours là. Alors M6, la collaboration, elle est beaucoup plus condensée, hein, et là, la règle du jeu, qui sont l'association de deux lettres, le M et le 6, donc elle est résumée même sur un seul grand panneau, qui sont toutes les animations du M, toutes les animations du 6, et les façons dont les deux lettres vont s'accoupler pour signaler tout simplement qu'on est sur M6, et ça dans une, je crois, il y a 9600 versions différentes. Puis à chaque fois des nouveaux problèmes, M6 à l'époque c'était RTL, c'était Rue Bayard, il y a de petits, c'est des tout petits studios, alors ça je suis toujours avec Mathias, et on a des problèmes à résoudre, Mathias Ledoux, on a toujours des problèmes à résoudre, c'est-à-dire le cadreur, derrière sa caméra, est assis à côté du présentateur. Et il y a deux miroirs à 45 degrés dans l'angle d'un petit studio de la rue Bayard. Donc ils sont côte à côte et puis le plan est serré. À cette époque-là, il y a des énormes plateaux sur Antenne 2, sur France 2, énormes, avec des miroirs, des arrière-plans, etc. Là, on est cadré serré. Toujours il y a des problèmes de budget, d'argent, etc. Et on ne peut utiliser que des hommes pour présenter un truc qu'on avait conçu, qui s'appelait le 6 minutes, et je crois qu'il existe toujours, parce qu'un gros plan sur un visage, ça nécessite entre 3 quarts d'heure et 1 heure de maquillage et de travail sur un visage féminin, alors que sur un visage d'homme, les quelques poils du nez ou d'oreilles qui peuvent émerger sont tout aussi visibles, mais moins désagréables, moins gênants que sur le visage d'une femme qu'il faut coiffer, maquiller, les cils, les sourcils, etc. Donc tous ces petits problèmes-là de bricolage, ça c'est M6, et puis encore RTL 9, RTL TV, RTL 9, ça c'était à Metz. Là, c'est pareil. Le le présentateur du journal, alors là c'était vraiment low cost, le présentateur du journal envoyait lui-même ses sujets en poussant la cassette. Il y avait un assistant à quatre pattes à côté de lui qui glissait la cassette dans le magnéto, qui lui prenait la main pour lui mettre sur la cassette, et dès qu'il avait fini son commentaire, il envoyait le sujet, tac, il envoyait la cassette. Et la caméra était fixée avec des vis au mur en face, et il était sur un strapontin à vis de façon à pouvoir se régler et être bien cadré, etc. Donc ça, toute cette époque-là est formidable pour le bricolage.
C'est l'âge héroïque de la télévision.
Oui, c'est les bricolages, pas de la télévision, mais des exigences visuelles et graphiques pour une chaîne qu'il faut appliquer sans budget et qui soit applicable par tous, par tout le monde, par toutes. C'est des grosses équipes, donc il faut animer tout ça, il faut les motiver, leur expliquer pourquoi c'est important. Avec des exemples, de faire la différence qu'il y a entre une plongée et une contre-plongée. Ben ça, on apprend ça en deuxième année d'école de cinéma, mais enfin, c'est toujours bon de le rappeler, etc. Alors, sans parler des grands débats politiques où il y a des grandes discussions sur la façon dont on va poser les caméras ou les angles de caméra.
Alors, vous n'avez pas fait que de la télévision, évidemment, dans ces années-là, et loin de là. Ce qui m'intéresserait de savoir, Étienne Robial, c'est quelle discussion vous avez avec quelqu'un qui vient vous voir? On peut prendre des institutions, par exemple, comme le Centre National du Cinéma, Unifrance, la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image, autant d'institutions dont vous avez redessiné l'image. Comment se passe un rendez-vous? Et est-ce que vous êtes là pour faire presque une psychanalyse du client, pour comprendre qui il est fondamentalement et ce qu'il veut avant de lui faire une proposition?
Voilà, alors surtout pas, c'est un mot à bannir, je ne fais pas de proposition. Je dirais que j'ai affaire à des malades et que mon travail consiste à trouver le bon remède de façon à ce qu'ils aillent mieux ou de mieux vendre. Moi, j'ai pas peur des mots et on m'a toujours demandé de mieux vendre et... que ce soit un livre, une chaîne ou une institution. Tout d'abord, je ne réponds pas aux appels d'offres, tout simplement parce que j'estime que je suis un professionnel. Je ne sais pas si je suis un bon ou un mauvais, mais je suis un professionnel. Et le principe même de l'appel d'offres, c'est de dire que c'est un système où vous faites des propositions et que vous avez une instance supérieure qui va juger du bien fondé de ce que vous allez proposer, et ainsi de suite. Alors là, je m'oppose complètement, et dans mon enseignement aussi, je suis très attaché à ces valeurs-là. Nous sommes des professionnels et nous savons régler des problèmes de couleur, de forme et de typographie. Et donc, j'admets qu'on ne puisse pas adhérer ou apprécier le travail que je propose. C'est pas grave, on va rester bons amis à bientôt. En revanche, si le travail que je présente correspond à ce que vous attendez, et puis ça c'est une prescription, je vous assure que on va faire du bon boulot ensemble et continuons. Donc ça c'est une règle absolue. À ça s'ajoute un certain nombre de choses comme le prix. Faut être très cher. Alors très cher, ça s'appelle tout simplement la valorisation de son travail. Ce qu'il y a de pire, c'est de travailler à l'œil pour son beau-frère ou le voisin de sa voisine, du beau-frère, etc. Vous bossez à l'œil, vous lui faites un joli logo, puis vous lui faites faire un petit logo, puis vous retrouvez votre logo rouge, là, vous l'avez fait bleu. Oh, bah, Étienne, on n'a pas voulu te déranger, mais ma femme, elle aime pas. Alors, c'est vrai que je suis un peu beaucoup misogyne. J'ai des souvenirs avec Messier qui est passé par Canal+, foutre un peu le bordel à une époque. Je lui présentais, alors je dis présenter, pas proposer, hein, je lui présentais un logo pour Vis-à-Vis, ou même j'ai bricolé Vivendi et tout ça. Et il me dit, oh, bah, laissez-moi ça sur le, faites-moi un tirage ou donnez-moi une clé, j'en sais rien. Je montrerai à ma femme ce soir. Elle a bon goût. D'ailleurs, Étienne, il faudrait que vous veniez à la maison. Vous verrez comment c'est décoré à la maison. Il y a un gris taupe sur les murs et ainsi de suite. Puis c'est décoré du meilleur goût. D'ailleurs, vous avez vu, c'est elle qui choisit mes cravates, etc. Alors, effectivement, je m'inscris pas du tout dans ce genre de truc. Et pour cause, un jour, j'ai cédé et Madame Messier a fait savoir que le rouge était pas assez framboise, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que ma gamme chromatique, j'ai beau chercher, il n'y a pas la couleur framboise et les fruits agrumes et tout ça ne correspondent pas. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très autoritaire, c'est sûr, et puis une direction artistique, une charte graphique, c'est quelque part une dictature. C'est une règle du jeu, c'est un mode d'emploi.
Vous prenez la formule du groupe Bazooka,
la dictature graphique. Bazooka que j'ai édité. Oui, c'est un peu ça. Mais alors, on ne va pas appeler ça une dictature, c'est simplement une règle du jeu, un mode d'emploi. Et puis avec l'habitude, le temps, bah, je manipule ça bien. Plutôt bien, et surtout le bilan est que les images, alors j'aime pas plus trop le mot logotype, mais les marques continuent à être en place et à vivre, et surtout elles sont évolutives. Hein. Là j'ai eu un gros chantier que j'ai fait avec mon fils Jules l'année dernière, il y a 2 ans, où on a repensé l'équipe. Qui était un journal entouré de beaucoup de satellites, dont un site qui fait 1,8 milliard de clics par an. Hein, chaque fois qu'il y a un but, il y a tous les gamins qui regardent leur petit truc. Donc l'idée, ça a été d'harmoniser les 8 directions artistiques. Toujours pareil, face à un syndicat du livre qui est quand même très puissant, et que l'équipe, aujourd'hui, c'est plus un quotidien, avec plein de trucs autour, plein de satellites, et on a fait ce qu'on appelle la marque unique, ce que d'ailleurs France Info a repris après, une marque unique, et tout le monde travaille pour une marque qui est l'équipe. Donc il y en a dont le job c'est de faire des choses qui seront imprimées sur du papier, entre 11h30 le soir et minuit 15 où ça imprime, hein, tout ça c'est des métiers, et puis de faire vivre des sites, faire vivre des magazines, faire vivre une télé, il y avait aussi une télé, donc le travail c'est pas de faire tout ça, c'est d'harmoniser tout ça.
Alors pour reprendre, là encore une fois, je suis une institution ou un journal ou une télévision, je viens vous voir, l'image que vous allez inventer ou adapter, c'est quand vous reprenez une marque qui existe déjà, comme l'équipe, c'est tout de même votre lecture de ce qu'est cette institution. Comment est-ce que, très bêtement, ça vient sur le papier, l'idée que vous pouvez vous faire de ce que vous allez prescrire, docteur Robial?
C'est toujours un travail d'organisation, d'harmonisation. Et je suis toujours moi sur mon credo qui est l'identification. C'est avant d'être, et ça c'est vrai que c'est un défaut un peu même français. C'est chacun veut marquer sa différence, chacun veut. Alors sa différence, faut la marquer dans sa spécialité, dans son professionnalisme, chacun dans son domaine. En revanche, dès qu'on aborde l'aspect général visuel, si c'est rouge, c'est rouge. Il n'y a qu'un rouge. En l'occurrence, c'est le 285 PMS, telle équivalence quadrille, et c'est la règle du jeu. Donc au début, les gens sont un peu effrayés. Mais alors, on n'a pas le droit? Non. Et si non? En revanche, avec ce rouge, avec tel type de typographie, il te reste encore des milliers et des milliers de choses à faire pour faire vivre ce rouge, pour faire vivre cette typographie, pour faire vivre cette mise en page. Parce que la chose la plus importante, c'est, en l'occurrence sur l'équipe, c'est l'information. C'est de donner le résultat, même avant les autres, expliquer pourquoi, comment le but, je sais pas quoi, a été marqué... Il est là le job, il n'est pas pour faire joli chacun dans son coin, où là ça devient anarchique.
Alors tout ça, c'est ce que vous apprenez, j'imagine, à vos étudiants. Vous avez parlé, vous avez évoqué cet enseignement. Cet enseignement, il se fait dans une école qui s'appelait l'École supérieure d'art graphique Maître de Penningen. Maintenant, c'est Penningen.
Ça s'appelait tout, avant. Oui, l'école s'appelle aujourd'hui Penningen, ex-Académie Julian, et ça date du siècle dernier.
Vous pareil, êtes depuis quand? Depuis 1996.
Depuis 96. Alors là, c'est pareil, c'est... J'ai remplacé avec Michel Bouvet un grand graphiste qui était Roman Sislevitch. Donc j'ai remplacé avec Bouvet parce que j'avais pas non plus énormément de temps. Et ça m'a énormément plu. Toujours cette idée de partage ou de ce jeu de toujours de ces couleurs et de ces formes. C'est trop bien. Et l'enseignement, c'est riche au niveau du partage. C'est-à-dire, vous avez vu, quand vous mettez ça et ça, ça donne ça. Oh, j'ai des cinquièmes années, donc ils sont quand même déjà bien très matures dans la manipulation de tout ça. Ils regardent ça d'un drôle d'œil, mais ils s'aperçoivent que ça va beaucoup plus vite. De coller ou de crayonner ou d'esquisser, un peu comme fait un architecte. Un architecte, il fait ce qu'on appelle des esquisses et des dessins. Et c'est pas lui qui prend sa truelle et qui va construire les murs avec des briques. Là, c'est pareil, c'est un peu un travail d'architecture. Donc, on retrouve toujours mon faux départ, où je voulais peut-être être architecte.
On retrouve aussi ce que vous aviez appris à Vevey, savoir tenir un crayon et savoir tracer un cercle avec un compas.
Tout à fait, mais donc ce sont ces outils qui permettent d'aller très vite, et après de faire exécuter ou d'exécuter soi-même avec les techniques ou les logiciels mis à notre disposition. Mais la créativité ou... La spontanéité, elle arrive beaucoup plus vite avec un papier et un crayon, et surtout avec l'équivalent du pomme Z, qui s'appelle une gomme. Alors évidemment, la gomme, chez moi, ce n'est que la Staedtler 526-50, bien entendu, bleue et blanche, que les graphistes connaissent bien, qui est l'humilité. Et un coup de gomme, c'est se remettre en question, c'est pouvoir... aller très vite. L'exercice que je donne à mes élèves, c'est de dessiner à l'aide de deux lignes droites dans un carré trois surfaces harmonieuses. Point. Harmonieuse. Alors c'est le mot le plus complexe qui soit. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie? L'harmonie, c'est le rapport entre forme contre forme, entre le dialogue entre les couleurs. C'est gérer. Ça s'apprend avec de l'initiation, hein. C'est une initiation, c'est une formation. Il y a beaucoup de choses écrites sur le rapport des couleurs, sur le rapport des formes. Donc c'est une culture professionnelle appuyée et très concentrée pour obtenir la meilleure harmonie entre les formes, les lignes et tout ça. Donc il faut en faire 50 ou 60 différents, donc jusqu'à 10-15, ça les amuse, de 15 à 25, ils commencent à me pas trop comprendre, de 35 à 50, ils me détestent, et après je leur dis, il faut en choisir qu'un, A, parce que entre A et B, il y en a un qui répond mieux à la question. Donc faut choisir là dans les 50 les mieux. Alors faut les classer, on apprend à les classer. Il y a ceux qui sont en forme de Y, il y en a qui ont des lignes parallèles. Oh, la parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle est parallèle? Il y en a qui se croisent à angle droit de façon rectiligne et ainsi de suite, on les classe et puis on choisit le meilleur de la famille, puis après on choisit le meilleur des 8 qui restent et ainsi de suite. Et c'est ça le travail qui est difficile. Surtout quand ils sont en cinquième année, faire des choses, des trucs, c'est pas compliqué. En revanche, choisir. Alors, pas choisir selon des critères de joli. Enfin, je marque à droite du tableau les mots qu'il ne faut pas utiliser, joli. On n'est pas là pour faire joli. On est là pour harmoniser pour mieux vendre, pour que la rétine clignote davantage. Alors c'est aussi bien à des fins mercantiles. L'affiche d'un théâtre, c'est pas fait pour y mettre du sens. Je leur explique que ça sert à rien de mettre du sens dans les images, parce que souvent il y en a pas beaucoup, et que le directeur du théâtre, du centre culturel, qui a aussi un avis sur ce qu'il faudrait faire et des jolies affiches qu'il souhaite, mais ce qui l'intéresse, c'est qu'on voit clairement indiquer la station du métro et qu'il y ait vachement de gens qui viennent voir son spectacle. Alors si
ça vous parle en connaissance de cause, je fais une assise avec Pierre Lescure, vous êtes intéressé au théâtre Marigny aussi.
Ouais, aussi également.
J'allais vous poser la question, d'ailleurs, si dans votre enseignement à Penningen, vous abordez ces questions-là, la fonction sociale du graphisme. Parce qu'il y a malgré tout une ligne éthique possible dans ce métier. Il y a une responsabilité dans la ville. On est entouré de signes envoyés par les graphistes de partout. Est-ce que ces questions-là
s'abordent ? Bien sûr, c'est de la plus grande importance, c'est-à-dire le rôle du graphisme. Et je dirais, en ce qui nous concerne, en France, où nous sommes dans un pays sinistré. Donc je vais vous reparler des pays luthériens, hein, les Allemands, les Suisses, où c'est un véritable plaisir d'aller et venir dans les rues. Des promenades sur les autoroutes allemandes où je photographie les poids lourds, qui sont des objets merveilleux. En France, nous sommes un pays sinistré graphiquement. La Poste, la SNCF, et j'en oublie, nos institutions bancaires et autres, ce sont de vraies catastrophes visuelles. Ce sont des agressions, encore une fois, parce que le système... En France, l'éducation sur la chose graphique et visuelle est incomplète ou inexistante. Il n'y a pas d'éducation visuelle, il n'y a justement pas de tradition de l'écrit ou de l'imprimé, et que c'est franchement parfois n'importe quoi. Alors aussi bien sur la chaussée, la façon dont le fléchage est indiqué, ne parlons pas de la signalétique routière, où toute la signalétique routière en France, c'est l'inverse de tous les pays du monde. Nous avons des panneaux d'autoroute blanc sur bleu, alors que tous les pays sont blanc sur vert, de façon à ce que ce fameux vert se confonde avec le paysage pour ne laisser apparaître que la lettre blanche dans un champ visuel précis. Puis généralement en bas de casse, en minuscule. C'est beaucoup plus lisible de lire Clermont-Ferrand en minuscule, avec un grand C et un grand F, plutôt que tout en majuscule, où vous mélangez les pinceaux entre les enjambements des M, des F et compagnie, et ça c'est complexe. Alors encore une fois, nos inscriptions dans nos gares sont mal faites. Et avec Handicap Zéro, justement, on voit la différence qu'il y a entre les très malvoyants ne lisent pas les capitales. C'est absolument impossible. Il faut que l'enjambement des M soit inférieur à l'interlettrage, de façon à ce que la lettre, le M et ses trois enjambements soient bien isolés à l'intérieur du mot qui lui-même s'inscrit dans un... etc., etc. Donc, quand on est enseignant, prof, c'est de sensibiliser tout le monde au maximum. Alors, non pas pour faire des choses isolées, mais d'avoir un regard beaucoup plus général sur l'ensemble des éléments qui constituent notre champ visuel d'information, toujours c'est pour informer. En France, nous avons 4 fabricants de panneaux de signalisation. Ils ont chacun leur rouge et ils ont chacun leur bleu. Le rouge de Neuf n'est pas le même que l'imprimerie, que les mailleries alsaciennes, qui a un autre rouge parce qu'ils le trouvent plus joli comme ça. Vous voyez, donc, vous voyez le besoin de règles du jeu. Et tout ça, ça existe chez nos voisins européens. Et tout ça est très bien établi. Et en France, c'est notre côté latin. Voilà.
Et vous avez fait votre propre système de signalisation routière? Si un jour le ministère des Transports disait bon, il faut uniformiser tout ça, allons voir Robial.
Je les attends avec plaisir parce que c'est vraiment des passions. Mais je me suis déjà exprimé là-dessus. La DDE a eu un droit de réponse et un monsieur qui me dit ah mais monsieur. Vous croyez qu'on fait ça comme ça à main levée? Eh ben non, on a un ordinateur, vous pouvez mesurer, et que chaque espacement entre chaque lettre est rigoureusement le même. Ah, on a des ordinateurs, et ainsi de suite. Enfin, ça a déjà 15-20 ans. Et puis, c'est devenu un échange sympathique, et ils m'ont offert un panneau Chalon-sur-Marne, parce que je leur disais qu'ils devaient écrire Chalon-sur-Marne en tapant avec leurs doigts. Alors que... la façon d'écrire Chalon-sur-Marne dans un espace donné, c'est en soi un exercice et un objectif à atteindre, pas pour que ce soit joli, mais qu'on puisse lire et très très vite Chalon-sur-Marne, sinon on rate la sortie et on se trouve à la sortie suivante. J'ai passé des vacances à la forêt Fouesnant en Bretagne où il pleuvait tous les jours. Donc pour m'occuper, je suis allé faire un reportage photographique sur la forêt Fouesnant, sur tous les panneaux aux alentours qui indiquaient cette destination. Il n'y avait pas de pareil. La forêt trait d'union point F, point ou pas point, la F point Fouesnant, la forêt Fouesnant sur deux lignes, la forêt F au point, il n'y en a pas de pareil. Alors c'est pas les mêmes fabricants, c'est pas le même maire, c'est pas le même fournisseur et ainsi de suite. Je suis allé traîner mes baskets des réunions de maires où précisément il y a tous les fabricants qui vendent leur sens interdit pour mettre dans les communes. Ils n'ont pas la même charte graphique, alors que ça devrait être une charte graphique imposée. Le drapeau français lui-même n'est pas très charté. Le blanc doit être beaucoup plus étroit que les deux autres couleurs, parce que le blanc, vous savez, dilate. Quand on a du blanc, on dilate. Vous savez ça, quand on a un gros cul, on ne met pas un pantalon blanc, on met un pantalon noir. Et si on est anorexique, on fait l'inverse, on met un pantalon blanc. Tout ça, c'est ça mes jeux, c'est ça mes plaisirs. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, Étienne Robial. En attendant que vous robialisiez un peu plus le monde, merci infiniment de nous avoir accueillis toute cette semaine chez vous et dans votre atelier.
Voilà, et merci d'avoir écouté mes conneries pendant une semaine. Bonsoir.
Cette rencontre d'Antoine Guillot avec Étienne Robial. À voix nue, réalisation François Connac, prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.